Vous écoutez
RMC. RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
11h04 en direct jusqu'à midi, les grandes gueules du sport avec David Douillet, Mario Bartoli, Simon Dutin ce matin. Bonnes vacances si vous en avez, bon courage si vous travaillez et si vous vous réveillez seulement. Je vous le rappelle, vous avez d'abord de la chance, mais il y a aussi le podcast à retrouver dès maintenant. On a parlé de la Ligue 1 sans Mbappé, on a parlé aussi des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on est une nation de sport? N'hésitez pas à retrouver notre podcast dès ce matin. Dans un instant, le fameux débat caché, qui est caché, hein, comme vous le savez. Et puis à 11h45, les GG contre-attaque. Vous allez voter sur le compte X des GG du sport. On va faire un point sur vos votes. Et pour l'instant, en tête, c'est Marion Bartoli avec son débat sur le prix exorbitant demandé par DAZN pour l'abonnement. 54%, largement en tête. Mais elle peut être concurrencée par David Douillet, 26%, pour son débat sur la baisse des droits télé. Est-ce que c'est le début de la chute pour la Ligue 1 et le président Vincent Labrune? N'hésitez pas à aller voter pour David. Ou encore pour
26%, c'est chaud. Hein.
Ouais, c'est chaud. C'est chaud.
Si t'es 26, 54, 26, tu me rattrapes à 54. C'est que là, vraiment, ce jeu est truqué.
Tout peut arriver.
Je veux que toute ma famille vote pour moi en direct.
Simon Dutin, il est largué 20%, mais on sait jamais.
Aïe,
il est déçu. Déçu, vraiment.
Pour la France référence des sports co, c'est une question de génération, de vrai savoir-faire. Allez, votez pour Simon. Comme ça, il va devoir bosser à 11h45. Il est content, il attend que ça.
Mais bien sûr.
N'hésitez pas, hein, sur le compte X des GG du sport. Mais d'abord, on va parler d'une histoire d'amour dans les GG. Et vous savez ce qu'on dit? Il paraît que l'amour dure 3 ans.
RMC.
Les grandes gueules du sport passent la seconde.
Je reviens de chercher.
De Zerbi est officiellement l'entraîneur de l'OM.
Entre l'OM et De Zerbi, il y a un accord de principe sur tous les plans salarial, durée de contrat, ce sera 3 ans.
Et je savais que tu m'attendais.
J'avoue qu'on y croyait, mais je ne croyais pas que ça allait à tourner comme ça.
Boli dans l'axe, Marcel Desailly au second poteau. Et
but, le but de Boli.
Les seules fois que je rêve au football, j'ai le maillot de l'OM.
Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps.
Voilà. Ça va faire mal à Jérôme, on va être champion.
Mais tu vas arrêter à la mi-temps dans ce putain de vestiaire, tu vas voir le moral, moi, comme je te le remontais.
Tous les deux, on s'est fait la guerre.
Voilà pour cette idylle entre De Zerbi qui va commencer à Brest. L'idylle entre De Zerbi et Marseille, ça sera à 17h. Une équipe de l'OM qui a fait sa révolution, que ça soit dans le staff ou dans l'effectif, pour espérer se relancer, voire concurrencer, pourquoi pas, le Paris Saint-Germain. En tout cas, tout changer dans un club peu stable ces dernières années, ça ressemble à un projet risqué mais excitant pour un coach comme De Zerbi qui a déjà annoncé que c'était un pas en avant pour lui de rejoindre l'OM. Alors cette question, les GG, est-ce qu'il a eu raison de rejoindre l'OM? Oui ou non? Marion Bartoli.
Un grand oui.
David Douillet.
Je dirais oui par rapport au salaire qu'il va toucher. Non par rapport à...
Le plus important.
Non par rapport à ce qu'il va sans doute réaliser avec Pablo Longoria.
Simon Dutin.
Oui.
Oui pour Simon. Avant d'en débattre avec vous, on va accueillir Florent Germain. Salut Flo.
Salut François, salut à tous.
Salut Flo.
Vous allez
salut
bien Flo.
Bah ça
salut
va
Flo.
Bien. Et toi, de retour pour suivre
ça va, impeccable.
Cette saison de l'OM qui s'annonce très excitante avec un coach comme Roberto De Zerbi à sa tête. Quelles sont les ambitions de l'OM? Est-ce qu'elles ont été évoquées par le nouveau coach?
Oui, alors il y a un objectif annoncé et qui est prioritaire. Bon, c'était le cas l'année dernière, hein, ça n'a pas forcément fonctionné, mais c'est de finir dans le top 3 minimum, donc de retrouver la Ligue des Champions top 3 parce que ça évite un tour de barrage. Donc voilà, c'est un objectif annoncé, assumé, qui a été confirmé à plusieurs reprises et notamment hier par Leonardo Ballardi, le capitaine, nouveau capitaine de l'OM. De Zerbi, lui, de son côté, il insiste d'abord sur la nécessité de faire preuve d'humilité, à commencer par le premier match à Brest. Il a rappelé que c'est Brest qui est en Ligue des Champions et l'OM qui a fini 8e la saison passée, donc que Marseille revient de loin. Il a demandé à ses joueurs, c'est au cœur de son message, de prouver d'entrée qu'ils sont qu'ils méritent de porter le maillot de l'OM. De Zerbi, en fait, il sait que tout ça nécessitera une période d'adaptation à son style de jeu notamment, mais écoutez, cela ne l'empêche pas, le technicien italien, d'être très ambitieux.
Il faut faire les choses dans l'ordre. Et la première chose, c'est de réussir à finir de construire l'équipe, une idée de jeu, une identité, une âme, le cœur de l'équipe. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2-3 jours ou même en 2-3 semaines. Moi, je suis venu ici pour faire les choses de manière sérieuse, les faire bien. Mais il ne faut pas oublier de rester humble. On sait d'où on vient. Si vous me parlez d'ambition, évidemment que j'en ai à revendre. Je veux pouvoir rêver. L'idée, si on rêve, ce n'est pas d'arriver deuxième quand on connaît l'histoire de l'OM, mais encore plus haut. Au final, ce qui compte, ce ne sont pas les mots, mais les faits.
Con le parole, ma con i fatti.
Et il y a un objectif un peu plus large, même au-delà de l'aspect comptable et de la place au classement, c'est de prouver, et je crois que c'était au cœur de ton lancement, François, et des interrogations qu'on a tous autour de l'OM, si la stabilité est possible à Marseille, parce que c'est un projet de 3 ans qui démarre quelque part, des recrues à foison, ce choix fort cet été de tout changer ou presque, il y a déjà eu 8 recrues, il y en aura au minimum 2 ou 3 autres, il y a certains joueurs cadres comme Mbemba ou Veretout qui ont été mis de côté, qui s'entraînent en marge du groupe, donc voilà. Il faut vraiment que les résultats soient au rendez-vous pour séduire les supporters et valider cette stratégie et cette philosophie incarnée, tu l'as dit, par Roberto De Zerbi.
Merci Flo. Alors tu restes avec nous pour arbitrer ce débat à venir entre nos GG. Je rappelle la question, De Zerbi a-t-il eu raison de rejoindre l'OM? 32-16 aussi pour nous rejoindre. J'ai envie de commencer par toi David, tu es le seul à émettre des doutes justement sur le choix de l'Italien.
Bah, j'émets des doutes parce que je me pose toujours la question qui compose, qui recrute les joueurs à l'OM, quoi, voilà. Et au vu de ce qui s'est passé avant, on a pu noter des choix très très discutables. Et au regard de l'ancienne activité de Pablo Longoria, je me dis que est-ce que il a vraiment le choix? Est-ce que ça correspond aux intérêts personnels de Monsieur Longoria ou pas? Parce que c'est quand même ce qui s'est un peu passé avant. Voilà, je suis très circonspect par rapport à ça. Donc par rapport à quelqu'un qui vient d'un club comme Manchester, je me dis est-ce que il a pas fait le choix
Brighton,
du salaire
Brighton. Brighton.
Ouais. Brighton, pardon, excusez-moi.
De première ligue en tout cas, tu peux dire que oui, il était dans un championnat comme la première ligue, il était convoité par Manchester ça. Notamment.
Voilà. Choisir Marseille, je suis pas sûr que ce soit.
T'es un peu surpris par ce choix-là.
Ouais, je suis surpris. Alors, est-ce que les 6-7 millions qu'il touchera par an, il y a peut-être des primes qui vont peut-être évoluer et lui en donner beaucoup plus, sans doute. Hein, c'est comme ça que ça marche en général. Mais par rapport à la première chose que doit faire un entraîneur, c'est-à-dire sélectionner ses joueurs, ma question est, elle est en suspens. Qui fait le boulot? Est-ce que c'est lui ou Longoria? Et si c'est Longoria, je me pose énormément de questions. Voilà.
Moi, je comprends pas ce que tu veux dire, David. Tu as-t-il eu raison de venir? Tu dis non. Il a, grosso modo, il aurait eu tort de venir parce que c'est quoi? C'est Longoria qui.
Il est pas sûr d'avoir les mains.
Mais parce que on regarde ce qui s'est passé avant. On a noté que c'était Longoria qui constituait l'équipe pour diverses raisons et qui sont peut-être pas forcément liées à d'éventuelles performances de Marseille. Voilà, c'est mon avis.
À la faute que tu développes, c'est trop facile. Les intérêts personnels, mais c'est ce qui se dit.
On va dire c'est ce qui se dit.
Parler d'intérêts personnels, David.
Voilà.
Ah, d'accord. C'est ce qui se dit, mais il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui sont difficiles
Ah, ouais, mais quand tu vois les résultats de Marseille, ça confirme ce que je dis quand même.
Tu vois,
Marseille était en Ligue
des Champions. C'est pas parce qu'il y a de mauvais résultats qu'il y a un entraîneur qui fait une politique du club avec des fins personnelles. Enfin, ou alors ça, il faut le prouver, avoir des arguments solides et être.
Absolument. C'est pour ça que j'en reste là, parce que j'ai pas de preuves. Simplement ce qui. Non, mais oui, je suis honnête dans ce que je dis, quoi. Voilà, c'est tout. Et si Marseille, on est là aujourd'hui.
C'est une accusation.
Je ne sais pas, mais dans n'importe quel club, entre autres. Donc on pourrait même faire le parallèle avec une société. T'as un propriétaire, Frank Marcourt, qui est aux États-Unis, qui a beaucoup d'argent, etc., qui doit regarder ça du coin de l'œil, tu vois. Il doit pas être focus forcément sur Marseille tous les jours. Et qui laisse faire son directeur général, Monsieur Longoria, ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec les résultats qu'on connaît. Je suis désolé, mais la première décision à prendre, c'est de changer. Voilà. Or, il est toujours là.
Mais il a eu l'occasion de le faire, puisqu'il y a eu, on le rappelle, juste une réunion, et il y en a quand même régulièrement. S'il ne l'a pas fait, qu'il doit avoir encore confiance en Pablo Longoria.
Il est satisfait de la position de Marseille aujourd'hui ?
Mais non, mais il l'était sûrement des deux premières années où l'OM, c'est vrai, a échoué en barrage, enfin en tour préliminaire, mais n'était pas si loin que ça de la Ligue des Champions l'année d'avant. S'était qualifié avec Sampaoli. Quelque part, il a été sûrement séduit par le fait que Pablo Longoria, Mehdi Benassia repartaient sur un nouveau projet et assumaient a priori certaines erreurs. Donc dire que Pablo Longoria et la direction de l'OM jouent très très gros sur cette saison, tout le monde est d'accord et je pense que personne ne peut le nier. Après, retrouver encore ces accusations-là, alors que quelque part, il n'y a rien qui peut le prouver,
j'accuse tout ça est pas, trop facile. J'ai mis des doutes, si, alors, je n'accuse pas.
Mais non, mais
pour moi, c'est d'intérêt personnel. Mais au regard de ce qui, des choix qui ont été faits, etc., c'est extrêmement suspicieux. Quoi. J'ai mis des doutes, c'est tout.
Il y a beaucoup de clubs, David, qui laissent le président et la direction faire le recrutement.
Est-ce que c'est le cas Flo, cette année avec De Zerbi?
Mais il y a ces deux concerts avec Roberto De Zerbi, à tel point qu'il a fait venir Giovanni Rossi, qui est l'homme de confiance, que connaît Pablo Longoria, mais qui a travaillé beaucoup avec Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi, il va pas signer à l'OM s'il a pas la garantie d'avoir
surtout, il a commencé
un œil
déjà
sur le recrutement.
À mettre des cadres déjà sur le déjà largement côté, voir qui sont sur les transferts. Il n'est pas venu à l'OM pour le salaire.
Marion.
Mais il est venu à l'OM pour le vélodrome, pour l'atmosphère, pour l'engouement autour de ce club. Il l'a dit lui-même, c'est exactement ce qu'il a déclaré. Il vient pour l'ambiance, pour le potentiel, pour l'histoire de ce club. Et ensuite, parce qu'il est venu.
6 ou 7 millions d'euros par an, c'est ce que tu dis.
Non, mais il était. Mais c'est pas possible. Mais non, mais David était courtisé par le Barça, par le Chelsea, par le Bayern, par United. Il vient à Marseille pour autre chose. C'est quelqu'un qui est un fou absolu de foot, qui est complètement passionné. C'est un méditerranéen dans l'âme. C'est un disciple aussi de Guardiola. D'ailleurs, son jeu est un jeu vraiment en possession, tourné vers l'avant. C'est un jeu extrêmement dynamique et je pense que ça va vraiment ravir justement le public marseillais. Mais Marseille est un de ces clubs, alors qu'on le veuille ou non, qu'on soit supporter ou pas de ce club, et là j'essaye d'avoir vraiment un recul plus important, c'est un club hors norme, qui a une vie autour de ce club qui est hors norme, et qui attire, effectivement comme l'était Sampaoli, comme d'autres entraîneurs, qui sont absolument passionnés par ce sport, qui les attirent par ça, par ce projet, par l'histoire de ce club. Parce que De Zerbi bien et que c'est un des entraîneurs les plus cotés du foot européen, voire éventuellement du foot mondial, il a attiré avec lui des joueurs qui ne seraient pas venus si De Zerbi n'était pas là. Mais du coup, on se retrouve quand même avec un recrutement qui est meilleur et la mainmise qu'a De Zerbi actuellement sur le projet est beaucoup plus importante. Je te rappelle quand même qui met Mbemba sur les transferts, qui met Harit sur les transferts, qui met Gigot sur les transferts, qui met Unai sur les transferts, qui met Veretout sur les transferts. Aucun entraîneur qui est venu à l'OM auparavant n'a osé faire ça. Donc quand tu parles effectivement de mainmise de l'entraîneur ou de capacité de l'entraîneur à gérer son effectif et à ne pas avoir de parasitage par la direction qui est au-dessus de lui, en tout cas sur les premiers signes envoyés, force est de constater que c'est beaucoup plus important du côté de De Zerbi et ça c'est indéniable.
Simon.
Marion, ne te méprends pas, j'aime beaucoup Marseille, tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Et ce qui m'attriste, c'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Je suis triste que ce club en soit là aujourd'hui. J'aimais simplement des doutes entre le couple Longoria-De Zerbi et je souhaite avoir tort sur toute la ligne, crois-moi, je te le dis.
Moi, David, je me demande où en serait l'OM justement si Longoria n'était pas là, parce qu'il y a deux façons de voir les choses. Ok, la saison dernière.
Ils n'auraient pas été capables de faire venir
un échec,
ça,
mais je pense que. Marion avait raison de rappeler que De Zerbi, c'est quand même un coach qui a la côte, qui est à la mode, évidemment. Donc le mec qui produit le football qui plaît le plus actuellement à Guardiola. Donc ça, c'est pour le cliché. Tout le monde n'a cessé de répéter tout ça. Mais je pense que c'est insulter l'entraîneur De Zerbi que de s'imaginer qu'il vient dans un club où il va être aux ordres du président et on va lui dire, tu sais quoi, Coco, tu vas te débrouiller, tu vas jouer avec un tel. Parce que le président, on sait que Longoria, il est interventionniste, on sait qu'il a le recrutement,
Simon,
c'est son truc, on sait qu'il joue un peu à Football Manager de temps en temps, mais moi je considère que l'OM a de la chance, une chance immense d'avoir ce mec-là aux commandes
du club. Ça d'accord,
mais
tu réponds pas vraiment à la question, est-ce que lui il a eu raison de venir à Marseille?
Il a eu raison parce qu'il y a un effet de loupe sur tout ce que tu fais à Marseille. Si tu réussis à Marseille, t'es pas un entraîneur à succès, t'es une légende. Et Marseille qui n'a plus remporté le titre depuis 2010, je crois, 2009-2010, bon, t'as une chance immense. On parlait d'un Paris qui se reconstruit sans méga star, machin. T'as une chance immense de réaliser quelque chose, je pense, qui serait légendaire si on lui laisse le temps de bosser. Que Longoria, il continue de mettre sa patte, c'est ce que disait De Zerbi chez les copains de l'équipe hier ou avant-hier. Ouais, Longoria, il lui propose des profils. Bon, mais évidemment que ça discute. Et De Zerbi, tu crois qu'il.
Mais tu vois, t'as le dossier là des gardiens aussi qui est très intéressant.
Bah, en fait, tu crois que l'idée, c'est de savoir si De Zerbi aura suffisamment de caractère pour contrer Longoria dans ce qu'il veut imposer, c'est tout.
C'est ça, en fait, le vrai
débat. Est-ce qu'il a suffisamment de caractère pour s'opposer à Longoria dans ses choix?
Après, il y a eu des matchs de caractère qui ne sont pas restés très longtemps. Là, je me tourne vers Flo, mais un Sampaoli, un Tudor, ils n'ont pas réussi à avoir cette continuité. Qu'est-ce qui fait qu'avec De Zerbi, il pourrait y avoir cette stabilité à l'Olympique de Marseille?
Écoute, on verra. Après, c'est sûr qu'une année à l'OM, c'est intense et peut-être que ça en vaut deux ou trois dans des clubs où le contexte est un petit peu plus soft. Je sais pas. Après, c'était des caractères différents. Sampaoli,
il avait des exigences.
Regrette d'être parti. Ouais. Non, mais il regrette d'être parti aussi. Il faut le dire clairement. Il l'a dit plusieurs fois. Il n'ose pas l'avouer à 100% parce qu'il a cette fierté-là. Mais quand il fait, je le sais, je peux vous l'affirmer, quand il fait un petit flashback, il se dit jamais j'aurais dû quitter l'OM parce qu'il a eu des exigences
des
en termes de recrutement qui n'étaient pas à la hauteur de ce que pouvait lui offrir l'Olympique de Marseille. Et Tudor est un cas spécial. J'imagine que vous avez remarqué qu'il est déjà plus à la Juve et que Tudor est un personnage également compliqué et voilà, donc la volonté, mais moi j'ai envie de savoir si l'OM est capable de tenir 2-3 ans
mais
avec
regarde,
un coach, voire plus.
Ils ont signé Balerdi jusqu'en 2028. Ils ont signé Balerdi jusqu'en 2028, justement, prolongé. Un peu à la demande de De Zerbi, justement, en disant c'est un jeune, il doit s'inscrire sur le long terme dans le projet de l'OM. On voit déjà quand même aussi la patte de l'entraîneur. Il y a le gros dossier des gardiens. Il a fait venir un gardien de l'Ajax pour remplacer Paul Lopez. Il a fait venir aussi un deuxième gardien. Il dit que la hiérarchie pour l'instant sur le premier match qui va commencer sur Brest aujourd'hui, c'est Rouli qui part, mais qu'ensuite la hiérarchie c'est celle du terrain et que c'est deux très bonnes recrues et qui va les mettre en concurrence. On sent quand même qu'il y a un entraîneur qui a une réelle patte, qui a un réel système de jeu, qui recherche des profils extrêmement ciblés pour son système de jeu. Mason Greenwood, si on met de côté tous ses problèmes extra-sportifs, personnels, etc., et qu'on juge uniquement le joueur, c'est un des meilleurs transferts de l'OM. Aujourd'hui, c'est un joueur qui devait être tous les jours international anglais s'il n'avait pas eu tous ces problèmes extra-sportifs. Donc, c'est des profils qui ont été capables d'être attirés par l'OM parce que Longoria a été capable d'aller attirer De Zerbi. Ouais. Et là où je rejoins Simon, c'est que pour un dirigeant comme ça, c'est très compliqué, je pense, si on avait un autre dirigeant, de faire venir un entraîneur de cette trempe-là. Alors peut-être que Longoria a commis des erreurs, très certainement, mais si tu es capable de corriger et de faire mieux, écoute, on ne va pas éternellement te jeter la pierre non plus.
Alors, de toute façon, il faut jamais, François, que ce soit ou l'entraîneur qui décide ou uniquement le président. La clé, c'est souvent une concertation, une osmose entre tout ce monde-là. Rappelez-vous, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on avait reproché à l'OM d'avoir donné les pleins pouvoirs à Rudy Garcia et d'avoir fait lui aussi son micmac, son recrutement, ses choix. Voilà, par exemple,
encore.
De revenir à un Strootman qui a été une catastrophe industrielle sur le plan financier.
Non, me rappelle donc, pas ça, s'il te plaît.
On est passé à autre chose. Mais la clé, c'est l'osmose. Et honnêtement, sur ce qu'on peut savoir à l'heure où on parle, au mois d'août, il y a eu énormément de discussions avant que Roberto De Zerbi signe. De Zerbi connaît Pablo Longoria. Il n'a pas attendu le coup de fil de l'été pour connaître le personnage. Il sait où il met les pieds. Il y a des hommes qui, entre Mehdi Benassia, Giovanni Rossi, qui sont censés justement faire le lien pour tout ça. Ça se passe au mieux. Donc, pour le moment, le tableau, il n'est pas forcément inquiétant, même si à l'OM, on sait que tout peut aller très très vite, selon les résultats, la pression des supporters, etc.
Tu
vois, Flo, quand il y avait quand même un gros dossier aussi dans le milieu de terrain, tu fais venir Hochberg qui a joué au Bayern et Tottenham. Quand même, tu as des recrutements qui sont intéressants. Ouais. Eli Wahi, qui était à Montpellier, qui était transféré pour 30 millions, c'est quelqu'un qui était demandé par Chelsea. Bon, tu es arrivé à le garder sur l'Olympique de Marseille. Donc, après, c'est bien évidemment, c'est le terrain qui donne les résultats. Hein. Mais sur le papier, c'est plutôt séduisant.
Il était demandé par Chelsea il y a un an, Marion. C'était avant de nous faire une saison
en demi-teinte.
Quand tu es demandé par des clubs de première ligue, tu peux quand même arriver à rebondir sur des milieux de classement de première ligue. Quand tu es demandé par la tête de première ligue, tu vois, et ils sont arrivés quand même à le garder à Marseille. J'aurais pu te donner Koné, hein, Canadien, qui a 22 ans, qui est jeune et qui a du potentiel aussi.
Benjamin est avec nous au 32-16 dans les grandes gueules du sport ce matin. Salut Benjamin.
Bonjour tout le monde.
Salut Benjamin.
Un petit accent, mais oui, bon, les amis.
Je peux pas le cacher, Benjamin. Il est supporter de Marseille.
Exactement.
Qu'est-ce que tu penses de notre débat autour de Roberto De Zerbi? Bon, pour toi, il a bien fait, j'imagine, de venir à Marseille.
Je trouve que De Zerbi, c'est la classe qui arrive. C'est la classe, la grande classe. Et puis, surtout, il ne faut pas cracher sur Longoria pour tout ce qu'il fait, le travail qu'il a fait. Quand il est arrivé à Marseille, il ne faut pas oublier, c'était la grosse galère. Héro nous a fait n'importe quoi. Rudy Garcia nous a fait n'importe quoi. Et on paye tout ce qu'ils ont fait avant. Ce n'est pas Longoria qui a foutu le bordel à le club.
Oui.
Non, mais jamais dit ça. Hein.
Après, il y a eu aussi des contestations de la part de supporters de Marseille. T'en faisais peut-être pas partie, Benjamin.
On conteste surtout, mais au fond, on est toujours fiers de ce qu'on est et ce qu'il a fait. Il ne faut pas déconner, on gagne la Gambardella, et là, il avait promis pour les jeunes, il a fait. Et il y a beaucoup de U15, U16, ils sont allés en demi-finale, en finale. Il ne faut pas oublier, ça fait combien d'années qu'on n'a pas fait tout ça. Et que personne n'a fait avant lui.
Alors qu'est-ce que ça serait toi, pour toi, une saison réussie de l'OM là, avec De Zerbi?
C'est la qualif pour la Ligue des Champions. Hein.
Ouais.
On n'a pas le choix, il ne faut pas se cacher. Il a fait des gros recrutements, avant il n'avait pas de chéquier, ma course ne lui passait pas grand-chose. Il était obligé de galérer, de faire des prêts à droite, à gauche. Et il nous a sauvés, il nous a sortis de l'OM. Et là, il a fait des gros recrutements. De Zerbi a fait des gros recrutements.
Ouais. Bon, on a hâte, j'imagine, et toi aussi, de voir l'OM cet après-midi face à Brest.
Contre Reims, le premier match. Hein. Non. Au Vélodrome, il faut l'enflammer de suite. Hein. Ouais. À Brest, faire un gros match ce soir, et puis enflammer le Vélodrome dimanche prochain.
Ouais. Mais après, il faut peut-être lui laisser du temps aussi, Benjamin. Hein.
Le temps, à Marseille, on n'en a pas, c'est ça le problème.
Ah oui, mais c'est ça le problème aussi, c'est qu'il faut peut-être laisser un peu de temps que tout se mette en place.
Avec le recrutement qu'il a fait, je pense que c'est De Zerbi avec sa classe.
Oui, mais il y a beaucoup de changements, c'est ça que je veux dire.
Ça va vite le faire. Ouais. Il y a toujours eu des changements, ça fait 4 ans qu'il y a des changements. Okay. Mais là, c'est trop long, il faut y aller vite.
Bon, bah t'es confiant, Benjamin. En tout cas, je pense que c'est partagé par pas mal de supporters de l'OM. On a entendu Marion en parler à l'instant. David, bon, pour l'instant, on t'a pas convaincu. T'attends de voir, évidemment, David. Hein.
Moi, j'attends les résultats.
De Zerbi à Marseille, t'attends la vérité du terrain. C'est à 17h ce match à Brest.
Tu dors, c'est à la Lazio. Hein. C'est à la Lazio de Rome,
Je suis pas sûr qu'il ait fait le bon choix, De Zerbi. Voilà, c'est tout. Vraiment.
Bon. Moi, je te dis qu'il a fait le bon choix.
C'est peut-être un excellent choix pour Marseille.
Oui, j'ai dit la Juve, bien sûr. Ouais.
Bon, en tout cas.
Et Eli Wahid est bien à nouveau convoité par Chelsea cette année.
Tac.
C'était il y a un mois.
Simon, réponds à ça.
Je ne sais pas, mais Marion a des infos d'insider. Mais
en même temps, Chelsea, ils recrutent à tout va et un peu n'importe comment. Il faut dire aussi les choses. Mais bon, ça, c'est autre chose.
Oui, mais ça reste quand même Chelsea.
Je suis d'accord.
On n'est pas à FC Tourcoing.
Ah, j'avais eu peur que tu dises FC Metz. Attention à toi.
pourquoi Tourcoing? C'est très bien, toi.
Mais oui, en plus.
Oui, mais bon, c'est joué. Ils ne jouent pas en Ligue 1. Qu'est-ce que tu te dis? Ni en première ligue.
Ils écoutent de Tourcoing. Mais bien sûr, on les aide. Merci beaucoup, Flo.
Merci, les amis. Ciao, ciao.
Au commentaire 21h de Monaco-Saint-Etienne pour toi pour lancer cette saison de Ligue 1. Et donc Brest-OM, c'est à 17h. À suivre, vous l'avez compris, en direct et en intégralité sur RMC à 19h. Il y aura Reims-Lille aussi au programme de cette journée de Ligue 1. La première, vous l'avez compris. Dans un instant, ça sera le débat caché dans les GG. Et puis les GG contre-attaque. N'oubliez pas d'aller voter sur le compte X des Grandes Gueules du Sport. Allez, c'est tout de suite sur RMC. À tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les Grandes Gueules du Sport.
François Pinet.
Elles sont de retour, vos grandes gueules du sport. Simon Dutin, Marion Bartoli, David Douillet, depuis 9h et jusqu'à midi avant de retrouver les paris RMC. Dans 15 minutes, les GG vont contre-attaquer. Vous le savez, elles vous ont proposé un débat et c'est vous qui choisissez. Et pour l'instant, eh bien, ça ressemble à un débat Marion Bartoli.
À sens unique.
Ça va être Bartoli Time dans quelques instants parce que DAZN, le prix exorbitant, ça vous intéresse. 56% pour l'instant devant le débat proposé par David sur la mort de la Ligue 1 et notamment aussi le départ, pourquoi pas, de Vincent Labrune programmé. Et puis, la référence des Sportco pour la France. Ça descend petit à petit, Simon. Hein. C'est de plus en plus.
Ah, quand ça parle de sport, ça intéresse moins les gens. Les gens veulent parler d'argent, visiblement. Mais bon.
Allez voter. Le résultat définitif, ça sera dans 15 minutes. Mais d'abord, vous le savez, c'est l'heure du débat caché.
Ne leur faites pas confiance, ils vous tendent un piège. Ce sont des bandits de grand chemin.
Les GG ne savent rien, vous le savez. Mais elles vont devoir débattre. Et c'est ça qu'on aime. Le guet-apens du jour, c'est ça, les GG.
La
victoire, elle est dans la poche de Léo Marchand, de ce phénomène de la natation mondiale, du sport mondial. Léo Marchand, oh, champion olympique, quadruple champion olympique,
600e du record du monde.
Cinquième balle de match pour l'équipe de France. Wilfredo Léon au service.
C'est d'or, champion olympique, double médaillé d'or, Tokyo 2020 et Paris ici à la maison.
C'est l'égalité, une égalité maintenant vraiment.
Ah non, deux là, pénalités de chaque côté pour la gagne dans ce tournoi par équipe.
C'est un champion tédien. Allez, on s'y gagne.
Petit best-of des grands moments des Jeux Olympiques avec nos reporters RMC. Il y en a
pas
eu
nous
beaucoup.
Demander de choisir un de meilleurs moments.
Eh
bah
ben
hein.
Si.
Ah, t'as pas le droit.
Eh bah si.
Ah non.
Comme c'est le retour des GG après cette parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, je devais vous poser la question. Quelle est la plus grande performance sportive de ces Jeux Olympiques pour vous, les GG? David Douillet. Plus grande performance sportive pour toi.
Ouais, bah je vais te la dire, hein, sans problème. En un mot, c'est pas facile. Hein.
En deux.
Moi, je dirais gagner en lourd, en judo, et le lendemain, faire le point décisif pour que la France soit championne olympique par équipe mixte.
Teddy Riner, voilà.
Ça, c'est lourd. Teddy.
Simon Dutin.
On est obligé de choisir du bleu, du blanc, du rouge ou
plus grande performance sportive de ces Jeux Olympiques.
La plus grande performance sportive de ces Jeux Olympiques.
Tic-tac. Bah, c'est ça, le débat caché. Hein.
Bah, moi, j'ai apprécié. Je ne sais pas pourquoi j'ai été marqué par.
Qu'est-ce qui te vient à l'esprit là,
le Julian Alfred sur le 100 mètres féminin. Là,
ah oui, d'accord.
De la course de Sainte-Lucie là, qui a damé le pion aux Américaines. Et
bah, pourquoi pas.
Et au reste de la planète. Mais bon, sinon, il y a quand même.
Vas-y, s'ils en 10 aussi. Hein.
Non, mais. Samba Maïla.
Ah bah alors, j'en ai un autre.
Samba Maïla, championne olympique du 98 mètres. Et j'ai trouvé ça pas mal. Aussi quand même, c'était beau.
De 98 mètres, ouais.
Bah, c'est
parce
dommage
qu'à 2 mètres près.
À 2 mètres près, elle était championne olympique. Voilà.
Ah, c'est ça, d'accord. Ouais. Mario Bartoli.
Il y a aussi
ta plus grande performance sportive pour ces Jeux Olympiques.
Je avec les sous-titres parce qu'il n'a pas les sous-titres. Non, mais je ne peux pas choisir entre les Français, je suis désolée.
Mais
peux pas
si,
faire ça
choisis.
Parce que... Non.
Oh,
non.
Qu'est-ce qui te vient à l'esprit?
Non, j'en aurais deux. Vas-y. J'en aurai deux et j'arrive pas à les départager. L'un, c'est l'enchaînement papillon brasse pour Léon Marchand parce que même son entraîneur était sceptique, c'était quasiment impossible à faire. Et il y arrive à le faire. Et elle arrive à le faire alors que ça faisait 2 ans qu'on l'attendait, qu'il devait gagner. Il arrive à gérer cette pression. Et sur le dernier 50, il avale le Hongrois alors qu'il est derrière. Et ce dernier 50 mètres de folie avec cette salle en feu, je l'oublierai jamais. Et pour moi, en tant que bien évidemment joueuse de tennis, de voir Novak Djokovic gagner cette médaille d'or, de le voir en train de trembler à genoux sur la terre battue parisienne sans perdre un set, c'était un moment d'histoire pour mon sport proprement dit qu'il est impossible de ne pas mettre en lumière.
Ouais, je crois que tu avais parlé des performances de Corentin Moutet et
C'est moche. Ce n'est pas validé. Mais par contre, entre les Français, c'est très, très difficile pour moi de choisir.
Alors David, toi, Teddy Riner, évidemment, c'est ton sport, le judo. Mais je suis assez d'accord avec toi sur la performance sportive de Teddy Riner, qui est incroyable. En il était attendu. Hein.
Alors, comme ce qui est incroyable, c'est oui, bien sûr. Mais ce qui est incroyable, c'est de cumuler deux grosses journées. Ça, c'est dur. Et je sais de quoi je parle. Je l'ai fait en gagnant les lourds et les toutes quatre à mon époque sur un championnat du monde. C'est hyper dur d'enchaîner deux championnats. Et encore, j'avais eu une journée de récupération de plus que lui. Il faut savoir que Teddy, quand il gagne les poids lourds, ça va jusqu'en Golden Score. C'est long, c'est dur, c'est physiquement éprouvant. Je sais parce qu'il me l'a dit. Dans la nuit, il arrive à dormir que 2 petites heures. Voilà. C'est pas simple pour récupérer d'une grosse journée qu'il a eue. Et le lendemain, rebelote. Il remet ça tellement bien que face aux Japonais, il sort encore un combat, un lourd combat, et il doit ressentir un autre combat face à ce même Japonais lorsque sa catégorie est sélectionnée pour faire le combat décisif en finale de ces Jeux Olympiques. Donc ce rendu, cet exploit, physique, psychique, mental, tout était au rendez-vous. Voilà. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste du très très lourd pour un athlète.
Alors évidemment, c'est en concurrence avec Léon Marchand qui a marqué les esprits. Comme
j'aurais
tu
pu dire la même chose de Léon.
Marion,
bon,
effectivement, voilà. c'est un choix difficile à faire. Mais Léon Marchand, lui aussi, évidemment, il a notamment marqué les esprits ce jour-là où il arrive à enchaîner deux courses dans la même journée, deux finales et aller chercher l'or à chaque fois.
Non, c'est exactement ça. Et puis, comme le dit très bien David sur la partie du judo, en natation, il a eu la même chose avec un enchaînement de courses entre les séries, les piscines de récup, les finales le soir, toute cette pression où il devait, entre guillemets, absolument gagner, la France entière qui le regardait. Et puis, tout s'est arrêté à chaque fois que Léon Marchand nageait dans la piscine. Enfin, on était sur d'autres arènes, sur d'autres compétitions. Les gens à Roland-Garros applaudissaient la course de Léon Marchand quand il était en train de la faire. C'était la France est complètement passionnée pour cet athlète, mais j'aurais pu choisir Pauline Ferrand-Prévot qui a finalement réussi à remporter sa médaille d'or. J'aurais pu choisir les deux médailles en cycliste sur route où non, c'était un exploit considérable. Enfin, tu vois, c'est quasiment impossible de les mettre un plus au-dessus de l'autre. Moi, il y a deux images en dehors des sportifs français parce que j'aime vraiment pas être dans la position de devoir choisir entre un exploit plus qu'un autre. J'aimerais simplement dire pour Simone Biles d'être arrivée à revenir après les difficultés qu'elle a eues, à plus arriver même à faire, à se retrouver dans l'espace pour faire une figure de ça, à remporter des médailles d'or. J'ai trouvé ça totalement exceptionnel. Et effectivement, en tennis, Novak Djokovic qui courait après cette médaille d'or ultime, il lui manquait plus que ça pour arriver à être sur le toit absolu du monde. Devoir le faire devant Carlos Alcaraz, qui est la future pépite du tennis mondial, en 2-7 sans perdre à 7 pendant une semaine, j'ai trouvé cet exploit sur le plan tennistique. Tu parlais, David, d'enchaînement sur ton sport. Là, en tennis, enchaîner comme ça tous les jours sur une surface aussi exigeante que la terre battue après être repassé sur gazon et s'être fait opérer du genou 2 mois auparavant après une blessure sur ce même court au même endroit, j'ai trouvé l'exploit absolument gigantesque et phénoménal.
Personne ne parle des 6m25 de Duplantis, quoi. On banalise
En fait, il faudrait tout mettre. C'est ça pour ça. Tu veux pas nous en faire choisir un.
En plus des 6-25 annoncés, hein, parce que Renaud nous avait mis dans la Renaud Lavillény nous avait mis dans la confidence sur les antennes d'ailleurs d'RMC quelques jours auparavant qu'il allait non seulement être champion olympique, mais qu'il allait tenter le record du monde. Voilà. Et il l'a fait.
Au bout du troisième essai.
J'étais dans le stade. C'était monumental. Parce qu'il est champion olympique à 6 mètres.
Il fait 6-10 après.
Il fait une barre intermédiaire à 6-10 et il bat le record olympique qui était à 6-0-3. Et ensuite, il se prépare pour le 6-25. Il échoue deux fois de suite parce qu'il est obligé de prendre une perche beaucoup plus dure. Il est obligé de prendre ses marques. Et le gars, il fléchit pas mentalement. Et au troisième, il passe. C'était monumental.
Et toi, donc, Simon, je m'étonne que tu ne parles pas de volet, puisque c'est quand même aussi
le volet, et quand même
être à nouveau champion olympique de poids de suite.
C'est absolument monumental, ce qu'ils ont fait. Moi, je me bats souvent pour que le volet soit reconnu à la hauteur de ses cousins, le basket et le hand. Je trouve que c'est un sport injustement sous-médiatisé par rapport à
ce qu'on a. C'était l'occasion, Simon, d'en parler.
Oui, t'as qu'à m'envoyer avant les réponses que tu veux que je donne.
C'est absolument
prodigieux ce qu'ils ont fait. On rappelle que en quart de finale, ils sont menés 2-7-0 par l'Allemagne et que s'ils perdent le troisième set, c'est dehors. Et ils réagissent, ils gagnent le troisième set. À partir de là, ils n'ont plus perdu un set. En effet. Donc oui, c'est prodigieux. Moi, je suis ravi au-delà du fait que c'est un sport qui m'est cher, je suis ravi, je pense que ça va faire du bien au développement d'un sport qui mérite d'être plus exposé et plus pratiqué, parce que encore une fois, le volley, il a su faire sa mue, ça se joue tout le monde a un ballon de volley à la plage l'été, ça se joue en famille, tout le monde peut apprendre à jouer, faire des passes dans l'eau, sur la plage, bon bref, c'est formidable. Pour revenir à ce que je te disais tout à l'heure, il y a un moment que j'ai trouvé absolument formidable, c'est la victoire de l'américaine Sydney McLaughlin sur 400 mètres haies. Elle a battu son record du monde. Et je je trouve que c'est un des moments qui est resté un peu suspendu, tu vois. Il y avait du Marie-Jo Perret, il y avait du Cathy Freeman, tu vois, cette espèce de déesse de la piste, quoi, de l'Olympe, quoi. J'ai trouvé ça absolument merveilleux. Elle a tout, elle a l'élégance, elle a la beauté, elle a la domination, elle les a écrasés. Et battre le record du monde dans un stade comme ça, à cette occasion-là, j'ai trouvé ça absolument prodigieux.
Il y a un autre exploit dont on ne parle pas, qui a été fait par un athlète français.
Ah, alors ?
C'est Tony Estanguet. Le fait d'avoir organisé des jeux aussi fabuleux que ceux-là, moi je lui tire mon chapeau. Franchement, à lui et toute son équipe, je pense à Étienne Taubois, mais Michael Aloisio derrière. Sincèrement, il y a de quoi être fier de nos organisateurs. Voilà. Et les Jeux paralympiques vont suivre. Sincèrement, coup de chapeau parce que la copie est pour moi parfaite.
Bon, en tout cas, vous pouvez citer vos meilleures performances sportives, vos meilleurs moments aussi de ces Jeux olympiques. N'hésitez pas sur l'appli RMC Direct Studio, sur le hashtag aussi RMC Live sur X. Il y a,
par exemple, Anna qui nous dit
Dupont rugby à 7, faut pas l'oublier. C'est vrai que c'était les premiers à remporter le titre olympique.
On a eu quand même un moment de radio. C'est Marc Madio sur la course.
Ah bah oui, fantastique.
Mais ça c'est quand même une des médailles d'or des JO aussi.
Mais tu sais qu'au-delà de la performance du copain Madio, évidemment inégalable à la radio, moi j'avais des frissons, j'avais quasiment les larmes aux yeux en voyant cette course cycliste, en voyant ce monde. Moi j'habite à Montmartre, c'est la rue Le Pic, j'y passe plusieurs fois par semaine, et je trouve que c'est finalement peut-être l'épreuve qui résume le mieux ce qu'on a vécu durant ces Jeux, parce que 500 000 personnes autour de cette course dans Paris. Moi, ce que j'ai vu, et là, en parlant, j'ai encore des frissons. Ce qu'on a vu dans Montmartre symbolise, je pense, ce qu'ont été finalement ces Jeux, quoi. Le succès populaire, l'ambiance de folie, le spectacle, les champions au rendez-vous.
Les Français aussi poussés par.
Exactement. Et les Français qui sont là, qui moi, j'ai trouvé ça, mais absolument, mais. Bah voilà.
On a une semaine après, mais vous voyez, on a encore des frissons rien que d'en parler, ces Jeux olympiques qui nous ont régalés.
Nostalgique aussi.
Et on est un peu nostalgique. Il va y avoir les Jeux paralympiques qui vont nous régaler aussi. Et bien sûr, il y aura une radio digitale spéciale Jeux paralympiques pour tout suivre, pour ne rien rater des épreuves françaises. Ça sera évidemment à suivre sur RMC. Puis on suivra toutes les performances sur RMC. On en reparlera dans les grandes gueules du sport, c'est évident, dès la semaine prochaine. Les GG qui continuent, c'est pas terminé. Jusqu'à midi en direct, elles vont contre-attaquer ces GG dans un instant. On risque de parler argent, abonnement, tout ça. C'est dans un instant. Restez avec nous, à tout de suite.
RMC, jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
François Pinet.
De retour dans les grandes gueules du sport jusqu'à midi, à retrouver en podcast aussi dès maintenant sur l'appli RMC, Marion Bartoli, David Douillet, Simon Dutin qui vous accompagne depuis 9h dans les grandes gueules du sport. On vient de parler des Jeux Olympiques, il y a pas mal de messages sur l'appli RMC Direct Studio, comme Julien qui nous dit « Moi je remercie toute l'équipe RMC de nous avoir fait vivre ces JO avec autant de passion, la médaille d'or est pour vous ». On prend la médaille d'or.
Ah oui.
Hein, évidemment, je sais que David il en a plein les placards, mais nous on n'en a pas, donc on la prend. Et puis le triplé au BMX aussi, il ne faut pas oublier ça, c'était dingue aussi, c'est vrai qu'il y a plein de choses à raconter sur ces JO d'anthologie. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir demain. Mais vous le savez, à 11h45 sur RMC, c'est le moment pour les grandes gueules de prendre les commandes de l'émission.
RMC, les GG contre-attaque.
Les GG contre-attaque, les GG qui vous ont fait 3 propositions de débat ce matin sur le compte X des grandes gueules du sport. Ça y est, les votes sont clos. 3e et dernier et déçu, Simon Dutin, avec son débat sur la France, référence des sports collectifs. Est-ce que c'est une question de génération ou de vrai savoir-faire? Comme il est là demain, j'ai l'impression qu'il va nous le refourguer demain, non?
Écoute, on verra, on va peut-être trouver quelque chose d'un petit peu plus...
18% seulement.
Ouais, bah écoute, on va s'adapter au désir de nos auditeurs.
Je sais pas pourquoi, mais
auditeurs.
Je te sens pas très déçu.
Ah, on va trouver un truc.
Je sais pas, ouais, un truc.
Ah, bah je vais m'en remettre, mais
il
va trouver un truc un peu populo avec de l'argent au milieu pour demain, vous inquiétez pas.
Deuxième. Et il s'est bien battu, 24% pour toi, David Douillet, pour la mort des clubs de Ligue 1, c'est le début de la chute du président de la Ligue. Oui, pas mal, mais bon. Écrasante victoire avec ce débat populo pour certains. Le prix exorbitant demandé par DAZN pour l'abonnement. Déjà, est-ce qu'il y a débat déjà? C'est toi qui as remporté ces GG contre-attaque, Marion Bartoli. On va t'écouter.
Alors, j'ai l'impression que je vais faire un Bartoli Baston parce que là, je suis outré. quand on regarde les offres, donc, on a trois offres proposées par DAZN. Donc, une offre à 14,90€ pour seulement un match par semaine. Et vous n'avez même pas la possibilité de le choisir. 29,99€, 30€ pour l'intégralité des rencontres avec un engagement d'un an. Mm-hmm. Et une dernière offre sans engagement à 39,90€ par mois. À cela, il faut rajouter l'offre de Beansport de 15€ parce qu'ils ont eu un match pour 100 millions d'euros droit télé. DAZN a payé 400 millions. Donc, en tout, grosso modo, vont être entre 45 et au maximum 50€ par mois. Mais qui peut payer un montant pareil pour regarder des matchs de foot? Non, mais franchement, on en arrive à des sommes. Alors, je veux bien que DAZN joue sa partie en se disant, bah, nous, maintenant, on a nos droits, donc on met le prix de la diffusion au prix qu'on veut. Et puis, en plus, on vous fait un package où on vous refourgue d'autres sports, donc vous n'avez qu'à être content. Mais dans le contrat signé, et là, j'en reviens au débat tout à l'heure, et David avait raison, ceux qui ont négocié ces contrats, ça devait être écrit dans les contrats qu'il devait y avoir des prix planchers avec des prix à ne pas dépasser. Et je ne suis pas dans les confidences totales du contrat, mais force est de constater qu'à mon avis, ça n'a pas dû être fait, qu'on a dû être content de se débarrasser du bébé en se disant ouf, parce qu'on n'avait personne jusqu'à deux mois avant que la Ligue 1 recommence. Donc on est bien content d'avoir signé un truc, et puis on verra bien à quel prix ils mettront leur abonnement. Et avec ça, tu as un processus qui a tellement tardé avec une offre, un verdict qui est tellement été au dernier du dernier des derniers moments que tu n'as aucune marge de manœuvre quand tu es un dirigeant de la LFP. Donc tu es obligé de subir effectivement l'offre de DAZN qui a les pleins pouvoirs parce que c'est eux qui ont obtenu les droits pour le plus gros package et qui mettent un prix qui devient exorbitant. Et après, il ne va pas falloir s'étonner si les gens se disent, eh ben, écoutez, ben, moi, pour aller voir les matchs, je préfère aller streamer sur des plateformes un peu limites, mais pouvoir accéder à mes matchs, je n'ai pas l'impression d'avoir un prix où je suis obligée de me saigner pour pouvoir voir du foot. Je suis désolée, on ne peut pas demander aux gens de payer entre 45 et 50 euros par mois pour pouvoir voir du football. Ce n'est pas possible.
Après, ils ne sont pas là pour faire aussi, ils sont là pour faire du business. Hein. Ils ont dépensé près de 400 millions. Ils sont obligés de rentrer dans leurs frais.
Non, mais il y a business.
Sinon,
business,
ils mettent la clé sous la porte, Marion. Hein, c'est comme les diapos.
Non, mais tu ne mets pas la clé sur la porte parce que tu vas changer ton abonnement à 10 euros près ou à 15 euros près. Les gens, ça leur fait une énorme différence cumulée par mois. Non, je suis désolée. C'est des chaînes qui ont des énormes budgets qui sont sur plein de sports différents. C'est pour ça d'ailleurs que dans leur offre, quand tu lis leur offre, il n'y a pas que la Ligue 1 McDonald's à l'intérieur. Hein. Oui. Il y a d'autres offres sur le foot.
Les sports de combat aussi.
Il y a les sports de combat, etc. Donc ne t'inquiète pas pour eux. Ils ont largement les budgets. Ce n'est pas le problème des budgets. C'est le problème qu'ils sont retrouvés avec un monopole actuel et que la LFP n'est pas en position de discuter parce que le contrat a été signé beaucoup trop tardivement. Donc ils sont en position qui est complètement déforcée. Ils sont obligés de subir.
David.
La vraie question, est-ce que la Liga est-ce qu'elle est pas en train de scier la branche sur laquelle elle est? Parce que en acceptant ce type de deal est-ce que ça donne ce que Marion vient de très bien décrire, c'est-à-dire des gens qui n'auront pas les moyens justement de consommer dans les offres futures, dans les appels d'offres futures, avec un désintérêt des spectateurs sur la consommation de ce type de droit, je suis très très dubitatif et très circonspect sur la future valorisation de ces droits qui vont continuer à descendre. C'est évident, puisque il y aura moins de consommation parce que les prix sont trop élevés, les droits futurs vont être encore dévalués. Et là, on est dans une spirale descendante qui va conduire la Ligue dans une très très mauvaise posture. Et je pense aux clubs qui vont ne plus pouvoir recruter, c'est déjà le cas pour certains, ne plus pouvoir attirer de stars pour justement embellir la corbeille de la mariée et faire en sorte que la L1 devienne un
il est malin, David, parce que ça y est, il fait son débat qui n'a pas été choisi. Hop, il le glisse quand même.
Non, mais
le
c'est ça la finalité. Je pense que le PDG de DAZN en a quand même pris conscience parce que quand tu lis ses déclarations...
Ah bah il dit que c'est le juste prix quand même. Hein.
Non,
il dit que c'est le juste prix, le consommateur doit comprendre qu'il ne paye pas DAZN, il paye la Ligue et les clubs.
Oui, mais il dit aussi qu'en 6 mois, il faut atteindre au minimum 1 million d'abonnés,
et demi, ouais.
voire 1,5 million, ouais. Mais que de toute façon, ils veulent atteindre entre 2 et 3 millions au final. Donc ils seront obligés de proposer d'autres formules moins onéreuses pour pouvoir toucher un panel de clients plus large. Donc de toute façon, je pense qu'ils ont fini par comprendre. Il faut quand même se rappeler que boycott DAZN était quand même même dans les tendances des hashtags sur X pendant un moment.
Exactement.
Donc il y a une conscience qui a été prise, c'est pas possible. Il voit très bien ce qui est en train de se passer. Alors même, comme le dit Tony, si on est d'irréductible râleur, il y a quand même à un moment donné, c'est le suramarché qui a ses propres règles et ils en ont conscience. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train d'essayer de réfléchir à des offres qui soient moins onéreuses, parce que là, on va pas s'en sortir.
Simon, un mot sur ce débat.
Bon, c'est pas mal. Rappeler, c'est pas des philanthropes, hein, ils sont là pour faire du business. On rappelle quand même que les clubs, ils s'en foutent un petit peu hein, du nombre d'abonnés d'Azone. Ils vont toucher l'argent. C'est pas.
Après, ils sont là aussi pour qu'on voit le spectacle et leur club jouer. Ah, oui, à un moment donné, il ne faut pas rendre invisible.
Les sommes qu'ils vont toucher ne sont pas indexées sur le nombre d'abonnés d'Azone.
C'est une vision à court terme.
Qui fera ses propres comptes, en effet, et qui peut-être réduira la voilure si. D'aventure, ils n'ont pas le nombre d'abonnés qu'ils souhaitent, qu'ils espèrent. Non, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai cru comprendre que pour ce prix-là, DAZN ne comptait pas produire la diffusion de matchs forcément toujours sur site. Ils vont commenter en cabine, à distance. Bon, je trouve que c'est.
Oui, c'est le contenu, toi, édito,
c'est un peu se moquer du monde quand même, parce que à partir du moment.
Ça fait faire des économies.
Ah, ça, bah oui, j'imagine. Et donc, peut-être plus de profits avec moins d'abonnés, j'en sais rien. Écoute, on verra. Je pense que le PDG de DAZN, il a eu raison de rapporter quand même que rapporté au prix d'une place dans un stade, ça reste quand même envisageable, si tu es vraiment amoureux de ton club ou de la Ligue 1 ou des deux, de payer ton abonnement. Voilà,
mais justement, ils vont dans les stades. Les gens qui sont amoureux de leur club, ils vont dans les stades. Donc, ils vont devoir cumuler ils ne pourront être amoureux que de leur club. Ils ne pourront plus être amoureux de la Ligue 1 en général. Parce que les places dans les stades, ils les payent déjà. Donc, tu vas cumuler une place dans les stades, le coût d'une place dans les stades, ou le coût d'un abonnement dans un stade à l'année, avec ce type d'abonnement. C'était ce qui se produisait avant. Là, il va falloir faire des choix pour certains, c'est sûr.
Bon, en tout cas, t'as pas fermé la porte à DAZN, Simon. C'est intelligent de ta part aussi, on sait jamais s'il nous écoute.
Non, mais là où DAZN est une entreprise très différente de Mediapro, c'est que DAZN est déjà sur 15 autres marchés autres que le football. Donc, et ils sont déjà prospères dans ces autres marchés. Donc, de toute façon, ils ne vont pas mettre la clé sous la porte, ils ne vont pas faire faillite. Bon. Mais je pense qu'il y aura un ajustement tarifaire. Et peut-être que la première année, ils vont tellement se casser les dents qu'ils vont comprendre qu'il y a un ajustement tarifaire qui doit être mis en place.
Alors, il y a une solution en tout cas. Si vous voulez suivre la Ligue 1, c'est RMC, bien sûr, tout l'après-midi, vous l'avez compris.
Voilà.
RMC
en direct, on fait tous les matchs. C'est zéro, c'est gratuit.
Et avec les débriefs, avec Marion Bartoli, avec David Douillet, avec les GG aussi. On en reparlera demain d'ailleurs de la Ligue 1. Merci à tous les trois. Merci beaucoup, David. On se retrouve demain.
Merci.
Marion, à très bientôt. Et puis Simon aussi, on se retrouve demain et tout à l'heure pour justement l'intégral sport avec toi cet après-midi sur RMC. Belle journée à vous. Les GG qui reviennent dès 9h. Hein. Notez bien l'horaire, dès 9h sur RMC en direct jusqu'à midi.